Les podcasts du Collège de France, biologie.
Bien, je voudrais vous présenter tout d'abord mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Nous avons ce cours sur la Péline qui se tient ici, dans l'amphithéâtre Maurice Alpzax, parce que le cours d'Esther Duflo, qui se tient à la même heure, d'ailleurs si quelqu'un s'est égaré, ce n'est pas le cours d'Esther Duflo. Ce cours donc sur l'économie de la pauvreté a attiré beaucoup de gens et c'est très bien. Et donc l'amphithéâtre Guillaume Budet va être pris durant les semaines qui viennent par Esther Duflo, ce qui fait que les cours de la chaire de médecine expérimentale sur les nouveaux peptides vasoactifs se tiendront donc ici, ce lundi bien sûr, et puis les deux autres lundis à la même heure, de 17 à 19 heures. Voilà, je devrais donc vous souhaiter le meilleur, vous dire que ce cours va être la suite du cours ou de la série de cours précédentes, puisque nous avions étudié à fond la Péline, mais depuis il y a eu des données nouvelles qui sont particulièrement intéressantes, et donc nous allons faire un rappel sur la Péline et voir les données récentes sur la Péline, de façon à avoir une vue globale, et ce sera le but de ce cours-ci. Puis j'aborderai les deux autres peptides vasoactifs qui sont tout à fait intéressants, l'adrénoméduline, et nous dirons quelques mots de l'urotensine 2. Ce sont des peptides nouveaux qui partagent un certain nombre de propriétés. D'une part, ce sont ce qu'on appelle les peptides vasoactifs, c'est-à-dire qu'ils régulent le calibre des vaisseaux, et ces peptides s'inscrivent dans le cadre des peptides qui agissent sur le tonus vasomoteur et qui sont bien connus depuis longtemps, comme par exemple l'angiotensine, la bradykinine. Et ce qui est intéressant, c'est que récemment, on a montré qu'en dehors du contrôle du tonus vasculaire, ces peptides angiotensine, endothéline, bradykinine agissent aussi sur la structure même de la paroi artérielle. Ce sont des facteurs de croissance de la paroi vasculaire. Et ils exercent aussi d'autres propriétés qui ont été découvertes au fur et à mesure, des propriétés qui font que ces peptides interviennent dans certains secteurs comme le contrôle de la sécrétion ou de la production d'hormones. Ces peptides peuvent avoir des effets métaboliques. Ils agissent pour certains d'entre eux au niveau du système nerveux central. Mais comme ces peptides ont été découverts il y a longtemps, par exemple l'angiotensine, sa découverte date de 1940-1950, pour donner une fourchette un peu large, eh bien progressivement ces propriétés se sont ajoutées aux propriétés initiales de l'angiotensine qui, comme son nom l'indique, angio-vaisseau-tensine, tension, la propriété fondamentale de l'angiotensine, c'est bien la vasoconstriction. Et donc, l'hypothèse que l'on pouvait faire et que nous développons au laboratoire, c'est que ces peptides qui agissent sur la constriction ou la vasodilatation des vaisseaux peuvent jouer aussi un rôle dans la formation de nouveaux vaisseaux. C'est-à-dire qu'ils peuvent jouer un rôle dans ce qu'on appelle l'angiogénèse, qui est la création de nouveaux vaisseaux à partir de vaisseaux préexistants. Ils peuvent intervenir là, ils peuvent intervenir ultérieurement, c'est-à-dire que lorsque les vaisseaux sont déjà formés, ils peuvent les structurer, les maturer, c'est ce qu'on appelle le remodelage vasculaire. Et donc ces peptides peuvent jouer un rôle dans ce qu'on appelle la balance entre formation de nouveaux vaisseaux, l'angiogénèse, et l'anti-angiogénèse, c'est-à-dire la possibilité de bloquer la formation de certains vaisseaux, voire même de s'opposer à la formation de néo vaisseaux. Et ce qui est intéressant avec ces peptides comme l'angiotensine, l'endothéline, en tout cas, c'est qu'il existe des antagonistes des récepteurs de l'angiotensine et l'endothéline, et donc il est intéressant de se poser la question savoir si ces antagonistes de ces récepteurs, angiotensine et endothéline, peuvent jouer aussi un rôle, notamment dans la balance angiogénèse et anti-angiogénèse. Je ne reviendrai pas là-dessus, parce que nous l'avions déjà évoqué, mais en un mot, les peptides anti-angiotensines qui sont largement prescrits en clinique à l'heure actuelle. Il y a des millions de patients qui reçoivent des inhibiteurs des récepteurs de l'angiotensine. Ces produits ont un effet anti-angiogénique et en effet peuvent avoir aussi un effet antitumoral de ce fait. Donc, ce que je voudrais voir avec vous, c'est que ces peptides ont un effet finalement sur l'angiogénèse qui n'est pas obligatoirement relié à leur effet vasoconstricteur ou vasodilatateur. Je prends juste l'exemple de l'angiotensine et de la bradykinine. L'angiotensine est un vasoconstricteur, la bradykinine est un peptide vasodilatateur. Eh bien, dans les deux cas, ces peptides ont des propriétés angiogéniques et donc on ne peut pas relier directement leur effet sur la possibilité de former de nouveaux vaisseaux ou au contraire de les inhiber à cette propriété vasoconstrictrice ou vasodilatatrice. Cette propriété sur l'angiogénèse est liée aux récepteurs de ces vaisseaux, récepteurs de l'angiotensine, de la bradykinine et de l'endothéline. Ces récepteurs sont des récepteurs couplés aux protéines G et sont donc impliqués directement dans l'action pro- ou anti-angiogénique. Et comme je le disais donc, je crois qu'il est particulièrement important de connaître le rôle de ces produits qui s'oppose donc à l'action vasoconstrictrice, par exemple, de l'angiotensine ou de l'endothéline, pour savoir si, du même fait, nous n'allons pas avoir des effets sur l'angiogénèse. Et comme ces peptides sont pro-angiogéniques, savoir s'il n'y a pas un effet anti-angiogénique. Alors maintenant, ce qui est intéressant pour nous, c'est d'aborder trois peptides dont on a découvert les propriétés sur l'angiogénèse au cours des 10 années qui viennent de s'écouler. L'apéline, l'adrénoméduline et l'urotensine 2. Ces peptides, à vrai dire, partagent un certain nombre de propriétés en commun, ce qui justifie, si vous voulez, ce cours et cette vue synthétique que je vais essayer d'avoir avec vous lors des 6 heures qui vont s'écouler, pas aujourd'hui, mais des 6 heures qui vont s'écouler sur les 3 semaines qui viennent. Voilà. Tout d'abord, ce sont des peptides qui sont conservés tout au long de l'évolution chez les vertébrés. Et même l'urotensine qui existe chez vous et moi, qui existe chez les mammifères, en fait a été découverte chez les poissons. Et donc, c'est une histoire évolutive tout à fait intéressante puisque ces peptides existent très très tôt chez les poissons les plus primitifs. Ces peptides sont synthétisés à partir d'un précurseur qui va être découpé en plusieurs formes. C'est-à-dire qu'à partir de la même molécule, dans le cas par exemple de l'apéline, vous allez avoir plusieurs peptides formés à partir du même gène par maturation successive, impliquant vraisemblablement, mais on n'en a pas la preuve formelle, des proconvertins, c'est-à-dire des enzymes qui vont découper à des endroits très précis le précurseur inactif en peptide actifs. Un certain nombre de ces peptides ont ce qu'on appelle une conformation restreinte. C'est-à-dire que, d'une manière générale, ce sont des peptides relativement courts, donc ils peuvent être synthétisés sans difficulté par un chimiste, mais deux d'entre eux, l'adrénoméduline et l'urotensine 2, ont comme propriété commune d'avoir un cycle du fait de l'existence d'un pont disulfure entre deux cystéines. Alors, le fait d'avoir une conformation restreinte est intéressante pour les chimistes parce que ceci veut dire que le peptide ne prend pas n'importe quel type de configuration en solution ou dans les liquides biologiques. Il a une conformation assez précise et on peut essayer de mimer cette conformation par la synthèse lorsque l'on fait une analyse extrêmement fine de la structure de ces peptides. Ces peptides sont sécrétés. Donc, ils ont ce qu'on appelle une action endocrine parce qu'ils peuvent toucher plusieurs cibles en dehors même de leur site de production. Ils circulent dans le plasma. Ils peuvent être mesurés avec des difficultés. D'ailleurs, à chacun de ces peptides, il y a des difficultés assez importantes. Et ça, j'y reviendrai. Ils ont aussi une action, ce qu'on appelle autocrine, c'est-à-dire qu'ils peuvent agir sur le tissu ou la cellule qui les produit, et une action paracrine, c'est-à-dire une action à courte distance. Ils sont synthétisés par une cellule, comme par exemple la cellule endothéliale de la paroi artérielle, et ils vont agir à proximité sur la cellule musculaire, lisse vasculaire. Ces peptides agissent, comme l'angiotensine, l'endothéline et la bradykinine dont je vous ai parlé à l'instant, sur des récepteurs couplés aux protéines G. C'est une famille de récepteurs particulièrement bien connue et particulièrement intéressante pour trouver de nouveaux médicaments. Et puis, ces peptides ont comme propriété commune encore d'avoir une action cardiovasculaire, et c'est surtout celle-là que je vais naturellement détailler, mais ils sont aussi synthétisés et ils agissent au niveau du système nerveux central, au niveau de ce qu'on appelle l'axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien, donc l'axe endocrine qui va de l'hypothalamus jusqu'à la surrénale, et on dit que ces peptides ont un effet pléiotropique, c'est-à-dire qu'ils agissent non seulement sur la fonction cardiovasculaire, mais sur d'autres fonctions essentielles, comme par exemple le métabolisme lipidique, le métabolisme intermédiaire, et j'y reviendrai. Enfin, ces peptides ont une action angiogénique et tumorigénique, en tout cas pour la apéline et pour l'adrénoméduline. Ils promeuvent la formation de nouveaux vaisseaux et ils peuvent être impliqués aussi dans la progression tumorale. Enfin, et c'est ça l'intérêt de ces trois peptides, c'est qu'ils ont, à mon avis, une importance en physiopathologie qui est difficile à décrypter encore à l'heure actuelle, mais dans l'insuffisance cardiaque, dans l'ischémie du cœur du fait, par exemple, d'un infarctus du myocarde, dans le cancer du fait de leur propriété tumorigénique, dans le choc septique, notamment pour l'adrénoméduline, ces peptides peuvent avoir un effet important. Et j'insiste, ils peuvent être à la source de développement de produits agonistes ou antagonistes qui vont agir sur ces récepteurs couplés aux protéines G. Et pourquoi, finalement, ces peptides ont-ils été découverts relativement récemment? Eh bien, c'est parce que leurs récepteurs ont été eux-mêmes découverts relativement récemment. Si je prends par exemple le cas de l'apéline, le récepteur de l'apéline s'appelle en fait APJ. C'est un récepteur qui est homologue au récepteur de l'angiotensine. Et vous voyez qu'il y a un peu plus d'une dizaine d'années que ce récepteur a été identifié et comme étant un récepteur liant l'apéline. Donc le ligand du récepteur a été découvert ultérieurement après la découverte du récepteur APJ. Dans le cas de l'adrénoméduline, là aussi c'est une histoire qui est intéressante puisque l'adrénoméduline a été découverte avant le récepteur, mais le récepteur en question est un récepteur un peu particulier dans la mesure où c'est un récepteur couplé aux protéines G mais qui cède en quelque sorte d'une molécule adjuvante qu'on appelle RAMP, sur laquelle nous viendrons longuement la semaine prochaine, qui va donner la spécificité du récepteur de l'adrénoméduline dans la mesure où le récepteur ressemble au récepteur de la calcitonine, qui est une hormone qui intervient dans le métabolisme phosphocalcique, essentiellement d'ailleurs chez le poisson. Et puis il y a l'urotensine 2, qui est ce peptide découvert là aussi chez les poissons primitifs, et dont le récepteur était lui aussi un récepteur qu'on appelait orphelin, il avait un numéro en quelque sorte, avant que l'on ne puisse identifier ce récepteur comme étant le récepteur de l'urotensine. Alors, l'apéline est un vasodilatateur à effet inotrope positif, ça c'est sûr. L'adrénoméduline, pareillement, vasodilatateur à un effet inotrope positif, donc ces deux peptides vont augmenter la contractilité myocardique et augmenter le débit cardiaque. Dans le cas de l'urotensine 2, l'effet inotrope positif semble clair. En revanche, suivant les espèces et suivant les territoires vasculaires, et ceci en fait la difficulté, l'urotensine 2 peut avoir un effet soit vasoconstricteur, soit vasodilatateur. Mais l'urotensine 2 est un peptide intéressant pour la raison suivante. C'est que l'urotensine 2 est sans doute le peptide le plus vasoconstricteur qui existe. Avant, on pensait que c'était l'angiotensine. Puis, quand l'endothéline a été découverte il y a 20 ans, précisément en 1988 par Yana Zigezawa, on a pensé qu'on avait là le peptide le plus vasoconstricteur de l'organisme. En fait, le peptide le plus vasoconstricteur est l'urotensine 2. Si bien que l'industrie pharmaceutique a cherché très vite des anti-urotensine 2 pour s'opposer à un effet vasoconstricteur et avoir, si possible ainsi, un peptide qui serait un peptide vasodilatateur particulièrement intéressant. Et donc, il a été synthétisé. Il y a eu un produit qui a été administré chez l'homme. Et donc, je vous en parlerai la prochaine fois. C'est le seul pour lequel nous avons vraiment, en quelque sorte, une découverte récente sur ce nouveau peptide, synthèse d'un antagoniste du récepteur de l'urotensine. Mais vous verrez que malheureusement, alors même que le produit est très actif chez l'animal, très actif sur des tissus humains, en revanche chez l'homme, l'antagoniste a été arrêté du fait de son inefficacité. Alors l'apéline, je voudrais maintenant dans les minutes qui suivent faire une revue rapide et puis ensuite aborder avec vous les dernières nouvelles. Donc tout a démarré par la découverte d'un récepteur orphelin en 93 et la découverte du ligand l'apéline en 98. Et ceci a été découvert d'ailleurs par une équipe japonaise qui cherchait systématiquement des ligands de récepteurs orphelins et ils ont découvert donc que l'apéline était capable de se lier à ce récepteur qui avait été identifié comme un récepteur donc proche de l'angiotensine 2. Nous connaissons l'expression tissulaire de ce système, on peut dire qu'il y a un véritable système apéline-APJ, j'en dirai quelques mots, et le point intéressant c'est que ce système intervient dans le développement embryonnaire de façon d'ailleurs relativement spécifique selon les espèces. Il intervient essentiellement dans le domaine cardiovasculaire, sur le développement du cœur et des vaisseaux. Chez l'adulte, ce système, nous le verrons, intervient dans la fonction cardiovasculaire, chez l'adulte, avec vraisemblablement une importance en physiopathologie, notamment dans l'insuffisance cardiaque. Nous avons des arguments pour le dire, mais il y a aussi d'autres actions qui sont intéressantes. Et l'année dernière, j'avais rapporté le travail qui avait été réalisé au Collège de France par l'unité de Catherine Lorenz-Cortez sur l'effet anti-vasopressine, anti-sécrétion de vasopressine de l'apéline. Et nous avions suivi cet effet qui avait été découvert chez le rat par une étude clinique avec Catherine Lorenz-Cortez et Michel Azizi au Centre d'investigation clinique de l'hôpital Pompidou. Et nous avions montré qu'effectivement, dans certaines conditions, chez le sujet sain, l'apéline pouvait s'opposer à la libération de vasopressine. L'apéline a des actions métaboliques qui semble réellement important, ce qui en fait vraiment un peptide, comme vous le voyez tout de suite, à différents effets pléiotropiques, cardiovasculaires, système nerveux central sur la vasopressine et effets métaboliques dont je parlerai tout à l'heure, dans la mesure où ces effets sont intéressants à considérer sur le plan thérapeutique. Bien que le peptide existe depuis 1998, vous voyez, quand vous regardez le nombre de papiers qui traitent de l'apéline, ils sont relativement modestes, 215, ce qui fait que c'est un peptide attractif pour ceux qui ne veulent pas être submergés d'une compétition farouche, encore que de très bons groupes travaillent sur ce peptide. Je vais passer là-dessus. Pour revenir juste en une diapositive sur la manière dont est synthétisée l'apéline. Le gène de l'apéline est traduit en messager, en RNA messager, et un polypeptide, après proapéline, et synthétisé, qui comporte 77 acides aminés. Ce peptide est inactif, il va donc être converti en peptide actif, plusieurs peptides actifs. À la suite d'une conversion de ce gros peptide de 77 acides aminés en un peptide de 36 acides aminés par ce qu'on appelle une endopeptidase, une enzyme qui va cliver à l'intérieur donc, de ce précurseur, mais nous ignorons à l'heure actuelle quelle est la nature de l'endopeptidase. Alors ceci est important parce que, évidemment, on peut jouer sur ces peptides en intervenant sur leur maturation. Le peptide apéline 36 est actif, mais peut être converti aussi en différents peptides que vous voyez ici, 17, 13, 12, je reviendrai là-dessus, en peptides donc, qui sont tous des peptides actifs avec des propriétés différentes sur lesquelles je ne vais pas m'attarder. Et là, vraisemblablement, les peptidases qui interviennent sont ce qu'on appelle les proconvertases, c'est-à-dire qu'elles interviennent notamment pour la maturation du peptide 36 en peptide 17. Ce sont des proconvertases qui interviennent de façon classique après ce que l'on appelle un doublet basique, c'est-à-dire lorsqu'il existe deux acides aminés de type lysine-arginine qui sont des signaux, en quelque sorte, de maturation pour passer de l'apéline 36 à l'apéline 17. Alors, ces peptides actifs agissent sur le récepteur couplé donc aux protéines G, le récepteur APJ, et puis ensuite, il y a une inactivation par d'autres protéases de l'apéline. Alors, sans entrer trop dans le détail, voici quelques fragments de l'apéline, le peptide 17, le peptide 13 et le peptide 12, qui sont tous des peptides donc actifs. L'apéline 13 est une apéline qui est intéressante dans la mesure où il existe un glutamate en position 1 et que le glutamate peut être cyclisé sous la forme de pyroglutamate, ce qui lui confère une stabilité. C'est une conversion naturelle, c'est une modification post-traductionnelle assez classique et qui donne une certaine stabilité aux peptides. Si bien que un certain nombre d'études qui ont été faites avec des peptides synthétiques ont utilisé le peptide apéline 13, pyroglutamate, de façon à pouvoir avoir un peptide un peu plus stable que l'apéline elle-même 13 ou que l'apéline 17 ou 12, qui sont très rapidement métabolisés dans le plasma. L'apéline 13 peut être clivée en N-terminale, et elle reste à ce moment-là active sous la forme d'une apéline à 12 acides aminés, alors que l'apéline 13 peut être aussi clivée en C-terminale, donc le dernier acide aminé est supprimé, enlevé, par, à ce moment-là, une enzyme qui est intéressante qu'on appelle l'ACE2, Angiotensin Converting Enzyme 2, c'est-à-dire une forme relativement proche de l'enzyme de conversion, et dont je parlerai un petit peu tout à l'heure. Le point, c'est qu'à ce moment-là, cette apéline 12, qui n'a plus la phénylalanine en position C-terminale, mais à la place une proline, est inactive. Alors, le point intéressant, c'est qu'on peut essayer de stabiliser cette apéline 13 en bloquant sa conversion par la CE2, par des inhibiteurs d'ACE2. Et à l'heure actuelle, il y a une recherche sur des inhibiteurs spécifiques de cette enzyme. Et donc, on peut, comme vous le voyez, jouer de deux manières. On peut essayer de trouver des apélines-like, c'est-à-dire des molécules qui vont ressembler à l'apéline, ou au contraire bloquer la CE2 et potentialiser l'apéline endogène. Voilà le récepteur couplé aux protéines G, c'est un récepteur classique à 7 domaines transmembranaires, qui est couplé, en l'occurrence, à une protéine G inhibitrice. Et ce récepteur reconnaît, comme je l'ai dit, les différents peptides apélines, avec une affinité relativement semblable pour les différentes formes que je vous ai signalées, mais l'internalisation et la désensibilisation du récepteur varient en fonction du peptide apéline. Ceci est important pour la conception d'inhibiteurs ou d'agonistes de la pénine. Alors, quelle est la distribution tissulaire du récepteur et de son ligand, de la pénine, et du récepteur APJ? Si on va du cerveau jusqu'à l'abdomen, on peut dire que donc on trouve ce système au niveau central, système nerveux central, avec l'inhibition essentiellement de la production de vasopressine, vraisemblablement une modulation de la prise d'eau et de la nourriture avec quand même quelques résultats qui sont variables et donc difficile de se faire une idée précise. On trouve le système dans le poumon avec une action physiologique qui reste encore mal connue. On trouve le système au niveau du cœur et là, comme je l'ai dit, une action inotrope positive, une augmentation de la vitesse de conduction. On trouve ce système au niveau du pancréas et de l'estomac. J'y reviendrai un petit peu plus tard. Au niveau du système vasculaire, et comme vous le savez, ce système entraîne une vasodilatation et une angiogénèse. Ce que nous avions vu donc lors des précédents cours, c'était le rôle de ce système dans le développement cardiovasculaire, les effets bénéfiques a priori sur la fonction cardiovasculaire, avec en plus un effet diurétique, ne serait-ce que par l'inhibition de la vasopressine, et les effets métaboliques qui pouvaient être bénéfiques aussi. Des effets néanmoins qui étaient surprenants dans le contexte finalement d'effets plutôt positifs du système apéline, des effets de type pro-athérogène, c'est-à-dire que dans un papier que je vais revoir tout à l'heure, il y avait indication d'un effet de l'apéline en protecteur, en quelque sorte, un effet pro-athérogène, c'est-à-dire que la suppression du gène de l'apéline ou de son récepteur avait un effet bénéfique, puisque l'apéline aurait elle-même un effet pro-athérogène. L'apéline aurait un effet anti-angiotensine 2, ça j'y reviendrai aussi. Elle pourrait être un marqueur dans l'insuffisance cardiaque et l'obésité. Lorsqu'on la dose, on observe en effet qu'il y a un parallélisme entre ces affections et les taux d'apéline plasmatique. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en un an et qui vaut la peine d'être rapporté? La première chose, et c'est absolument essentiel, c'est la première administration d'apéline chez l'homme. J'avais terminé mon cours l'année dernière en disant que c'était quand même regrettable qu'un petit peptide de 13 acides aminés ne puisse pas être administré chez l'homme. Alors, ce peptide a été synthétisé, administré chez l'homme, et vous allez en voir les résultats. La deuxième chose qui est importante, c'est ce que nous avons appris sur la régulation par l'hypoxie du gène de l'apéline. Et j'en dirai quelques mots, parce que ceci est important pour comprendre le rôle de l'apéline, notamment dans le développement de la rétine, en tout cas dans des animaux modèles comme la souris, mais aussi le rôle de l'apéline dans le développement des vaisseaux du tissu adipeux. Il y a des résultats assez intéressants à cet égard. L'apéline a un effet bénéfique sur la glycémie et sur l'utilisation du glucose par les tissus. Autrement dit, l'apéline doit être considéré comme un peptide qui est un peptide hypoglycémiant, facilitant l'utilisation du glucose par les tissus. Et si je veux être schématique, un peptide qui se rapprocherait de l'insuline, ce qui est tout à fait intéressant, évidemment, comme alternative à un traitement insulinémique chez le diabétique. Nous verrons qu'il y a donc une controverse sur l'athérome expérimental chez la souris. Les derniers résultats montrent d'un groupe qui est un groupe particulièrement bien expérimenté. Ces résultats, qui connaît bien son travail, les derniers résultats sur l'athérome expérimental chez la souris montreraient que l'apéline a un effet bénéfique et protégerait contre l'athérome. Un des points importants aussi, c'est qu'il serait évidemment utile de bénéficier de molécules qui soient non peptidique, et la première approche qui est intéressante, c'est l'existence dans la littérature de trois analogues cycliques de l'apéline, de la petite forme de l'apéline 12, qui ont été étudiés sur des modèles tissulaires de signalisation. Donc, en aucun cas, il s'agit d'aller au-delà d'une expérimentation qui est faite in vitro et non pas in vivo chez l'animal. Mais enfin, c'est quand même, je crois, un premier pas pour la synthèse d'agonistes de la pénine. Et puis, j'essaierai de terminer ce cours en vous proposant que, à côté du système renine-angiotensine, qui est particulièrement bien étudié et qu'on connaît bien ici, eh bien, finalement, le système apénine-APJ se comportera un peu comme un antagoniste naturel du système renine-angiotensine. Et que, au moins, cette hypothèse de travail nous donne, je dirais, une ligne de direction d'hypothèses qui, je crois, sont intéressantes à poursuivre. Alors, chez l'adulte, donc l'apénine a un effet inotrope positif direct sur le cœur. Ceci a été montré in vitro, in vivo. Il a ce qu'on appelle un effet cardioprotecteur. Mais il est vrai aussi que les taux d'apéline et de son récepteur, quand ils ont été mesurés dans différentes cardiopathies humaines, ont conduit à des résultats controversés, contradictoires, dans la mesure où, dans un premier temps, le taux d'apéline plasmatique s'élève au cours des cardiopathies, au cours de l'insuffisance cardiaque. Et dans un deuxième temps, lorsque l'insuffisance cardiaque devient ce qu'on appelle décompensée, lorsqu'il existe des édèmes et bref des complications, à ce moment-là, une aggravation de l'insuffisance cardiaque majeure, le taux d'apéline s'effondre. Et lorsque l'on restaure, en quelque sorte, la fonction cardiaque de différentes manières, le taux d'apéline plasmatique s'élève de nouveau. Donc c'est sans doute une des raisons qui fait qu'il est difficile d'établir une corrélation claire entre le taux d'apéline plasmatique et d'autre part la pathologie cardiaque chez l'homme. Chez l'homme et chez l'animal, l'apéline a un effet hypotenseur via la production de monoxyde d'azote, ça c'est particulièrement clair, mais l'effet hypotenseur est très modeste. Autant l'angiotensine est très vasoconstrictrice, autant l'apéline est très peu hypotensive, très peu. Mais il a été dit qu'il s'agissait d'un vasodilatateur qui agirait à la fois sur le système artériel, de là l'abaissement de la pression artérielle, mais aussi veineuse. C'est-à-dire que nous sommes en présence d'un produit qui, en tout cas in vivo, entraîne une vasorelaxation des veines in vivo et aussi in vitro. Ceci dit, dans le cas de l'endothéline, de l'apéline, si l'on supprime l'endothélium, la face interne de la paroi vasculaire, on supprime en même temps la production de NO qui est dépendante de l'endothélium et de ce fait, il n'y a plus d'action vasodilatatrice de l'apéline, mais au contraire, une action vasoconstrictrice. Et ceci est illustré par ce type d'expérience où, si on regarde ici l'endothélium, en quelque sorte, les cellules endothéliales, l'apéline est synthétisée par les cellules endothéliales, vont agir sur les cellules endothéliales de façon autocrine, stimuler le récepteur de l'apéline qui se trouve présente, le monoxyde d'azote va être produit et va agir sur les cellules musculaires lisses vasculaires sous-jacentes pour entraîner une vasodilatation NO-dépendante. Mais il existe aussi un récepteur de l'apéline dans les cellules musculaires lisses vasculaires et donc l'apéline est aussi capable d'agir directement sur ce récepteur des cellules musculaires lisses vasculaires et à ce moment-là, la signalisation aboutit à une vasoconstriction par phosphorylation des chaînes légères de la myosine. Donc l'apéline a un effet double en quelque sorte. Elle peut être vasodilatatrice si l'endothélium est en bon état, capable de produire le NO, le monoxyde d'azote. Et puis, l'apéline est aussi vasoconstrictrice lorsque la cellule endothéliale est détruite, ou lorsque l'on bloque la production de NO, c'est-à-dire que l'on bloque l'enzyme qui fabrique le NO, la NO synthase, par différents produits pharmacologiques, comme par exemple le LNAM. Donc, pour résumer, je rappelle simplement que donc les taux plasmatiques d'apéline au cours de l'insuffisance cardiaque vont être modulés en fonction du niveau de gravité de l'insuffisance cardiaque, avec dans un premier temps une élévation, puis dans un deuxième temps une baisse, que le taux d'apéline dans le myocarde est élevé chez les patients en insuffisance cardiaque dans un premier temps, mais que les difficultés viennent du fait que les patients sont très hétérogènes dans l'insuffisance cardiaque. Et donc, quand on parle d'insuffisance cardiaque chez les patients, il faut les classer en fonction de critères très rigoureux qui ont été apportés par les cardiologues, et notamment les cardiologues américains ont classé en différents stades, grades, l'insuffisance cardiaque. Le dosage de l'apéline est difficile, et vous le comprenez tout de suite dans la mesure où il y a plusieurs fragments circulants. Et donc, il faut savoir lequel on dose dans toute la mesure du possible. Mais même lorsque l'on dose l'apéline circulante, il se trouve aussi qu'il y a une apéline locale qui nous échappe complètement et qui peut avoir peut-être à la limite au moins autant d'effets, sinon plus d'effets que l'apéline circulante. Et donc, c'est un reflet indirect de ce qui se passe. Et puis, il y a d'autres facteurs qui sont impliqués dans les variations des taux d'apéline, comme par exemple l'influence des traitements. Il est tout à fait possible qu'un traitement anti-angiotensine joue sur le taux d'apéline, de même que l'osmolarité, le plasmatique, peut très certainement jouer sur le taux d'apéline, puisqu'il y a une relation entre la sécrétion d'apéline et le taux plasmatique de l'osmolalité. Peut-être passer ça. Alors voici maintenant les premières études réalisées chez l'homme par la perfusion d'apéline. Alors voici une étude qui a été effectuée en Grande-Bretagne chez 24 volontaires sains, chez qui on a perfusé les deux formes d'apéline. D'une part l'apéline 13, le pyroglutamate 13, et d'autre part l'apéline 36, avec deux objectifs. Regarder s'il y avait un effet sur les veines et d'autre part sur les artères. Alors, sur les veines, on va regarder la veine dorsale de la main pour voir s'il y a une véno-constriction, une véno-dilatation. Et sur l'artère, on va regarder le flux sanguin de l'avant-bras avec une technique qui est classique, qu'on appelle la plétismographie artérielle veineuse occlusive. Excusez-moi, mais ça veut dire tout simplement qu'on va injecter très précisément au niveau d'une artère de l'avant-bras l'apéline et qu'on va regarder très précisément ce qui se passe au niveau de l'artère injectée et non pas dans l'ensemble de la circulation. Dans ce type d'expérience, en effet, il faut savoir si on s'adresse à un effet ce qu'on appelle systémique, qui va impliquer l'ensemble de l'hémodynamique de l'organisme, ou au contraire, si on va essayer, et c'est ce qu'il faut faire dans un premier temps, de regarder spécifiquement ce qui se passe au niveau du flux sanguin de l'artère perfusée. On peut évaluer dans ces conditions la participation du monoxyde d'azote par ce qu'on appelle un clamp NO. Un clamp NO, c'est simplement de bloquer, clamp ça veut dire bloquer, fixer, on va bloquer la production de monoxyde d'azote chez l'homme avec un inhibiteur de la NO synthase et on va voir si on a perdu cet effet vasodilatateur. C'est l'hypothèse de travail. Et puis on peut regarder aussi ce qui se passe en bloquant la synthèse des prostanoïdes et notamment de la prostacycline par l'aspirine. L'aspirine est un inhibiteur de la prostaglandine synthétase et donc de la cyclooxygénase. Et donc, on peut, avec l'aspirine, voir si on perd ou non l'effet vasodilatateur, puisque les prostacyclines ont un effet vasodilatateur. Donc, vous voyez que même chez l'homme, On peut essayer, avec une bonne hypothèse de travail, avoir une idée assez précise de ce qui se passe. Alors, premier résultat, les perfusions étaient bien tolérées. Évidemment, quand on donne pour la première fois un peptide, y compris un peptide naturel, on est dans un cas quand même facilité là, néanmoins, il est important et rassurant de voir que les perfusions étaient bien tolérées. Le point intéressant aussi, c'est, alors même qu'il y a des modifications de flux, que vous allez voir dans un instant, il n'y a pas eu de modification de la fréquence cardiaque et de la pression artérielle. C'est d'ailleurs ce que l'on espérait, puisqu'on espérait un effet local et non pas un effet systémique. Donc ça, ça veut dire que l'expérience, a priori, a été réalisée dans de bonnes conditions. Voilà l'effet artériodilatateur de l'apéline. Donc, perfusion à l'intérieur de l'artère et étude flux sanguin sous l'effet de la perfusion d'apéline 1-13, de l'apéline 13. Et là, ce qui a été réalisé, c'est des doses croissantes d'apéline sur un domaine large, puisqu'on est parti de 0,1 nanomol par minute jusqu'à 30. Donc c'est vraiment une augmentation considérable, bien tolérée, avec un effet avec l'apéline 1-13 qui va croissant jusqu'à la dose environ 1 nanomol, et puis après, il existe un plateau. On arrête la perfusion, et vous voyez progressivement, en quelques 10 ou 15 minutes, le flux qui revient pratiquement à son état antérieur. On réadministre à 1 nanomol par minute, qui était la dose qui commençait à être pratiquement maximum, donc la dose au plateau, et de nouveau, on obtient un plateau qui persiste. Donc, un effet assez rapide, un effet attendu de vasodilatation avec augmentation du flux sanguin et une disparition de l'effet relativement rapide. Dans le cas de l'apéline 36, où des doses de 0,1 à 30 nanomoles par minute ont été perfusées, vous voyez qu'il y a une augmentation plus lente du taux de flux sanguin, mais une augmentation plus importante à la fin, à la dose maximale de 30 nanomoles par minute. Et lorsque l'on établit une courbe dose-réponse, c'est-à-dire qu'on va regarder l'augmentation du flux sanguin en fonction de ces doses croissantes d'apéline 1,13 ou 36, on voit que les deux produits, finalement, sont pratiquement indistinguables en termes de courbe dose-réponse, sauf à la dose maximum d'apéline 36, où il existe un effet supplémentaire de l'apéline. On peut aussi regarder ce qui se passe avec des injections qui vont être séparées par des rinçages, en quelque sorte, de l'artère pour voir s'il va y avoir un effet cumulatif ou si, au contraire, on va retourner à l'état antérieur. Donc, à ce moment-là, on perfuse rapidement une dose qui est suivie pendant une quinzaine de minutes par l'administration de sérum salé, puis on perfuse une dose plus importante, etc. Et on observe pratiquement la même chose entre apéline 1,13 et apéline 1,36. On observe une courbe dose-réponse et il n'y a pas d'effet particulier de ces périodes lavage de ce qu'on appelle wash-out. Alors, maintenant, quel est le mécanisme de cette action vasodilatatrice? Eh bien, on a la réponse, parce que l'augmentation du flux artériel sous apéline, ici sous trois doses, 0,3, 1 et 3 nanomoles par minute, cet effet est en grande partie ou pratiquement complètement aboli lorsqu'on fait un clamp NO, c'est-à-dire lorsqu'on perfuse en même temps que l'apéline l'inhibiteur de la NO synthase. Et il existe donc une suppression la vasodilatation et donc une suppression de l'augmentation du flux sanguin artériel. Et ceci est tout à fait parallèle à ce qu'on observe lorsqu'on en administre de l'acétylcholine. L'acétylcholine, c'est un vasodilatateur qui agit par le NO. D'ailleurs, c'est comme ça que le NO a été pratiquement découvert. Eh bien, vous avez une suppression de la dilatation quand on fait le clamp NO. En revanche, si on fait exactement la même expérience, la même la même étude, mais en inhibant la synthèse des prostaglandines, en donnant à l'individu, avant l'étude de l'aspirine, donc il va inhiber la synthèse des prostaglandines, eh bien, il n'y a pas de modification du flux. Autrement dit, ce ne sont pas les prostaglandines qui sont incriminées, mais bel et bien le monoxyde d'azote. Donc c'est une belle étude, c'est pour ça qu'il fallait la détailler un petit peu. Une belle étude d'autant plus qu'elle montre aussi quelque chose qui n'était pas attendu cette fois-ci, qui est l'absence d'effet vénodilatateur. Alors l'effet vénodilatateur, on regarde le diamètre d'une veine dorsale de la main, qu'on étudie de façon un peu particulière, et on peut voir s'il existe un effet spontané de vénodilatation ou un effet sur une veine qui est préalablement vénoconstrictée, enfin une veine qui a été dont le calibre a été réduit par la perfusion de noradrénaline. Les veines sont très sensibles, les artères aussi, mais les veines particulièrement à la stimulation ou aux effecteurs adrénergiques. Et donc, en administrant la noradrénaline, on entraîne une vénoconstriction et on voit que dans ces conditions-là, l'apéline est incapable de lever la vénoconstriction, ce que l'on attendrait d'un vrai vénodilatateur. Autrement dit, cette expérience nous montre que, comme chez l'animal, l'apéline est une molécule à action vasodilatatrice pour le territoire artériel, mais n'est pas vénodilatatrice. Un des points importants dans cette étude a été la mesure du taux d'apéline plasmatique. Alors, la mesure du taux d'apéline plasmatique se fait à la fois dans le bras où l'on perfuse l'apéline et dans le bras opposé. Alors, c'est important. Pourquoi ? Parce que si on veut bien interpréter les résultats, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut se concentrer sur l'artère qui est perfusée par l'apéline et ne pas avoir d'apéline ou le minimum d'apéline circulante. Donc, lorsque l'on mesure le taux d'apéline dans le bras perfusé, bien évidemment, on observe une augmentation du taux d'apéline plasmatique qui dépend de la dose que l'on a perfusée. Mais dans le bras contralatéral, à des doses importantes, les doses les plus élevées de 10 et de 30 nanomoles par minute, on voit apparaître de l'apéline. Autrement dit, il y a eu un échappement de l'apéline qui a été initialement perfusée dans la circulation artérielle. La plétismographie veineuse, théoriquement, bloque le passage dans la circulation générale, mais vous voyez qu'il y a néanmoins, à des doses élevées, un peu d'apéline circulante. Ce qui fait que l'interprétation des résultats que l'on a doit être tempérée pour les doses élevées par le fait que vous pouvez avoir un effet à la fois local et un effet systémique. Mais enfin, c'est une série d'expériences qui nous permet de tirer un certain nombre de conclusions. La première conclusion, c'est que donc il n'y a pas d'effet vénodilatateur de l'apéline 13 ni de l'apéline 36, qu'il y a un effet vasodilatateur de l'apéline, de ces deux apélines sur le territoire artériel et qui dépend de la dose, un effet qui est essentiellement induit par le monoxyde d'azote et sans participation des prostaglandines dans l'effet vasodilatateur. Les limites, c'est qu'on a étudié qu'une veine, et donc on n'est pas sûr que d'autres territoires veineux ne pourraient pas être éventuellement sensibles à l'apéline, notamment les territoires centraux, et ceci est important dans la mesure où l'apéline a un effet à la fois inotropositif, artériodilatateur, et si elle était en même temps vénodilatatrice, ceci pourrait expliquer ses effets particulièrement efficaces dans l'insuffisance cardiaque expérimentale. Je l'ai dit, à des doses relativement élevées, on pourrait avoir des effets systémiques, donc c'est une limite à l'interprétation des résultats. Il y a beaucoup de choses naturellement à réaliser. Une chose qui n'a pas été réalisée dans cette expérience chez le sujet sain, c'est d'étudier ce qui se passe sur la circulation coronaire. C'est évidemment essentiel de voir si on a un effet sur la circulation coronaire de l'administration d'apéline, comme on peut s'y attendre a priori si on extrapole de l'animal à l'homme. Donc voilà une première série d'expériences intéressantes. Je voudrais maintenant dire quelques mots sur l'apéline et l'hypoxie. Tout d'abord pour rappeler quelques éléments concernant le rôle de l'apéline dans le développement cardiovasculaire suivant les espèces. Simplement pour dire que chez le poisson zèbre, il y a une expression très précoce de l'apéline et que vraisemblablement l'apéline intervient au niveau des précurseurs myocardiques et des vaisseaux à un moment donc extrêmement précoce, mais il n'y a pas d'anomalie du développement des vaisseaux primitifs. Chez la grenouille, chez le xénope, là aussi on observe une expression très précoce au niveau du territoire artériel et veineux et l'inactivation du système apéline et de son récepteur APJ entraîne des anomalies de la formation des vaisseaux intersomitiques. Et puis, chez la souris, là, on a quelque chose qui est différent, alors même qu'il y a une expression très précoce dans tout le lit vasculaire, eh bien, l'inactivation du gène de l'apéline ou du gène de son récepteur, l'APJ, n'avait pas montré d'anomalie majeure de la formation des vaisseaux. Ceci dit, il n'y avait pas eu d'études approfondies, je dirais, sur un vaisseau ou sur des vaisseaux particuliers qui sont les vaisseaux rétiniens et sur lesquels je vais passer quelques moments dans un instant. Chez l'homme, à ma connaissance aujourd'hui, il n'y a pas eu d'études, y compris chez le fœtus, donc je pense que ce serait intéressant de réaliser ce type d'étude qui a été réalisé naturellement pour d'autres peptides vasoactifs comme l'angiotensine, l'endothéline, la bradykinine, etc. Alors, nous allons parler un petit peu de la régulation de l'endothéline par l'hypoxie dans la mesure où c'est vraisemblablement l'hypoxie dans les vaisseaux rétiniens qui génère l'expression de l'apéline et qui fait que l'apéline, vous allez le voir dans un instant, est importante, au moins au cours du développement précoce des vaisseaux rétiniens à la naissance chez la souris. Mais tout d'abord, voyons comment on va répondre à cette question en trois points. Le premier point, c'est que nous allons étudier un peu dans le détail la réponse à l'hypoxie des cellules de la paroi vasculaire, et nous verrons que l'hypoxie, donc la baisse de la pression partielle en oxygène, entraîne la production accrue d'apéline par l'intermédiaire d'une élévation, d'une augmentation de l'expression du gène via ce qu'on appelle le système IF, c'est-à-dire hypoxia inducible factor, qui intervient sur un élément de réponse à l'hypoxie du gène de l'apéline. Et nous verrons qu'il y a un joli modèle qui est la régénération de la nageoire du poisson zèbre qui a été amputée. On va voir que c'est un modèle qui permet de dire qu'effectivement l'apéline vraisemblablement intervient à ce niveau-là. Deuxièmement, la vascularisation rétinienne, ça c'est un point important, et là il y a des arguments pour penser qu'il y a un effet synergique de l'apéline avec des facteurs de croissance vasculaire. Et enfin, nous verrons que la vascularisation du tissu adipeux peut être en partie sous la dépendance du système apénine-APJ. Alors, on va peut-être juste voir d'abord l'effet de l'hypoxie sur le système apéline dans les cellules endothéliales et les cellules musculaires vasculaires. Alors, les cellules endothéliales et les cellules musculaires vasculaires expriment toutes les deux ce système. Il y a et de l'apéline et du récepteur, comme je l'ai dit il y a un instant. Et donc, on peut faire l'hypothèse, bien sûr, qu'il existe une régulation de l'apéline via l'hypoxie et le facteur qui est induit par l'hypoxie, le facteur de transcription, hypoxia inducible factor, que je vais appeler maintenant IF. Et effectivement, le groupe de Florence Soubrier avec Mélanie Hériès a montré que in vitro, en culture, et in vivo, chez l'animal, l'apéline est exprimée au cours de l'hypoxie dans ces cellules de la paroi artérielle, cellules endothéliales et cellules musculaires et vasculaires. Ils ont montré le rôle du facteur induit par l'hypoxie, de IF, Ils ont identifié un élément de réponse AIF dans le gène de l'apéline. Et enfin, ils ont montré que l'apéline est impliquée dans la réparation de la nageoire du poisson zèbre, un modèle classique de réparation vasculaire en conditions hypoxiques. En un mot, si on met des cellules endothéliales ou des cellules musculaires lisses vasculaires en culture et qu'on les expose à l'hypoxie, 1% d'oxygène pendant 5 heures, le taux d'apéline, le taux du messager d'apéline augmente rapidement, en 4 heures, 8 heures, il y a une augmentation rapide donc, et dans les cellules endothéliales et dans les cellules musculaires lisses vasculaires. Ça, c'est in vitro. Quand on expose les souris à 10% d'oxygène, eh bien, leurs poumons expriment de façon accrue le gène de l'apéline et le taux d'apéline immunoréactive est aussi augmenté. Donc, dans des conditions hypoxiques, classique, je dirais, en culture et chez l'animal, l'apéline est régulée. Alors, on peut regarder quels sont les mécanismes responsables qui vont lier en quelque sorte cette baisse de la pression partielle d'oxygène et l'augmentation de l'expression du gène de l'apéline. Ce que l'on voit, c'est que sur le gène de l'apéline, il existe ce qu'on appelle un élément de réponse à l'hypoxie, qui est une petite séquence nucléotidique, en l'occurrence de 14 nucléotines, qui se trouve là et qui va interagir avec le facteur induit par l'hypoxie, IF. Il se trouve ici qu'il y a plusieurs éléments de réponse, mais il y en a un qui est particulièrement conservé dans toutes les espèces. On peut regarder par des méthodes statistiques quelle est la probabilité pour que le gène et l'élément en question soient conservés. Et cet élément est fonctionnel, c'est-à-dire que, effectivement, avec une série d'expériences sur lesquelles je ne vais pas m'attarder, mais on peut démontrer de façon très claire et précise que le facteur IF se lie sur cet élément, sur ces 14 nucléotides, et qu'il va y avoir une augmentation de l'expression du gène. Ceci permet donc de dire que l'hypoxie entraîne l'augmentation de l'expression du gène via le facteur IF. Maintenant, ce que je voudrais, pour terminer cette première heure, c'est dire quelques mots de ce modèle un peu particulier de la nageoire du poisson zèbre. Alors, ça semble tout à fait exotique, mais voici ce dont il s'agit. Vous avez à la fin du poisson zèbre, à la nageoire caudale du poisson zèbre, vous avez à l'âge adulte une artère qui est peut-être marquée de façon très précise par une protéine fluorescente qui va marquer les vaisseaux. Et ici, l'artère se trouve centrale. Elle se trouve dans les rayons cartilagineux de la nageoire et à la périphérie se trouvent les veines avec un réseau capillaire particulièrement développé à l'extrémité de la nageoire. Alors si on coupe la partie terminale de la nageoire caudale du poisson zèbre, on l'ampute en quelque sorte, on peut étudier ensuite la régénération de la queue, car c'est l'intérêt de ce modèle. C'est un peu comme la queue du lézard qui tout le monde connaît, qui se reproduit. Mais le poisson zèbre a plusieurs organes qui se reproduisent, et notamment la nageoire. Donc on coupe la queue devient hypoxique, puisqu'il n'y a plus d'oxygène qui va arriver au niveau de la partie terminale de la nageoire, mais il va pouvoir y avoir une régénération. Il y a un épithélium qui se forme, et puis ensuite, de nouveau, des vaisseaux qui apparaissent. Et on peut étudier cette régénération soit dans des conditions de normoxie, soit dans des conditions d'hypoxie. On fait nager les poissons dans un milieu dépourvu d'oxygène. Et puis en même temps, l'intérêt avec le poisson zèbre, c'est qu'on peut bloquer les gènes en mettant dans l'eau de l'aquarium des bloqueurs, des récepteurs de l'apéline. Donc vous voyez, on peut manipuler de façon, je dirais, assez simple, quand on ne fait pas l'expérience, c'est toujours plus simple de décrire les expériences des autres, mais enfin, c'est quand même un peu plus compliqué que ça. Mais on peut, de cette façon-là, jouer sur la régénération dans des conditions normoxiques ou hypoxiques. Et simplement, ce que je dirais là, c'est qu'on observe après l'amputation, 3 jours après l'amputation, une augmentation de l'expression du gène de la pénine. Et d'autre part, si on bloque l'action de la pénine sur le récepteur, où il y a en fait 2 récepteurs, sur les récepteurs de la pénine chez le poisson zèbre, avec des substances bloquantes, eh bien, il n'y a pas de régénération normale, il n'y a pas de récupération après amputation de la nageoire caudale. Et donc, ça, c'est un élément fort pour dire que la pénine, et la pénine elle-même, intervient avec son récepteur sur la régénération vasculaire dans des conditions d'hypoxie.
Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur www.college-de-france.fr.